Chapitre 26e. Monsieur de Morfontaine et son neveu le vicomte de la Morlière regardaient le docteur et paraissaient ne point comprendre encore. Celui-ci reprit. Depuis un mois, la mémoire revient peu à peu à notre cher malade. C'est vous qu'elle a reconnu d'abord, général, et elle vous a appelé mon père.
C'est vrai.
Puis Grindsel à qui elle a donné son nom. Ensuite le vicomte. Monsieur de la Morlière tressaillit. « Quant à vous, vicomte, reprit le docteur, est-ce que vous étiez mal avec votre cousine autrefois ?»«
Quelle singulière question, docteur !»
Et le vicomte s'efforça de rire.
« Pouah !» fit le général. « Il faisait un peu la cour, et comme elle aimait ce pauvre comte de Mardi. »«
Inde irae, dit le docteur, car j'ai cru m'apercevoir qu'elle regardait son cousin avec une sorte de colère.
« Pauvre ami !» dit le général en pressant la main de son neveu.
« Elle ne sait pas combien tu as été bon et dévoué. »«
Ah !» fit le vicomte avec un élan hypocrite.
« Qu'elle guérisse, cette chère Diane, et je lui permettrai de grand cœur de me haïr, mon oncle. »
Le général sourit.
« Tu es un noble cœur, » dit-il. « Donc, » poursuivit le docteur, « vous avez dû vous apercevoir que ce retour de la mémoire était lent, mais gradué. Ce matin, quand nous sommes arrivés, elle a fort bien reconnu le parc, l'avenue, le château. » Et lorsque sa vieille nourrice est accourue, elle l'a prise dans ses bras en fondant en larmes.
Tout cela est vrai, docteur.
Je n'ai pas voulu, reprit l'homme de science, qu'on la conduisît dans cette chambre qu'elle occupait autrefois et dont nous voyons la fenêtre.
Pourquoi ?
Je réserve cela pour plus tard. Le docteur parut réfléchir. Ne m'avez-vous pas dit, général, qu'il y avait ici près, au milieu des bois, une chapelle, où le dimanche, Madame Rupert, quand elle était jeune fille, rencontrait le comte de Mainhardy.
Oui, docteur.
Et un peu plus loin, n'y a-t-il pas le château de Mainhardy ?
À deux lieues.
Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Écoutez-moi.
J'écoute.
Après le déjeuner, il ne pleut pas, le temps, quoique incertain, pourra bien se maintenir jusqu'au soir. Après le déjeuner, dis-je, nous monterons en voiture avec notre malade et la vicomtesse.
Bien, dit monsieur de la Morlière.
Nous irons faire une grande promenade à travers les bois et nous visiterons la chapelle. Si la pauvre femme paraît se ressouvenir, nous la ferons remonter en voiture et nous continuerons notre route jusqu'à ce que nous apercevions le manoir de Mainhardy.
Alors ?
Le docteur s'arrêta brusquement.
N'entendait-on point de belle ombre, dit-il tout à coup, pendant les derniers jours de la résistance vendéenne, le bruit de la fusillade ?
Oui, dit le général. Et à chaque détonation lointaine qui nous arrivait, je voyais ma pauvre Diane pâlir. « Eh bien, il faut placer dans les bois votre garde-chasse et quelques domestiques. »«
Pourquoi faire ?»«
Pour lâcher des coups de fusil de temps en temps. »«
Oh mon Dieu !» fit le général. « Quelle émotion pour elle !»«
Il le faut. » !»« Et si terrible que soit cette émotion, elle ne peut que hâter la crise salutaire que je prévois. »«
Irons-nous jusqu'à Mainhardy ?» demanda M. de Morfontaine.
« Non, » répondit le docteur. Aussitôt qu'on aura aperçu les tours, il faudra tourner bride et revenir sur le champ.
Mais, observa le vicomte, je ne conçois pas ce que voulait faire de la fenêtre que vous avez voulu voir.
Attendez, monsieur, vous ne nous accompagnerez pas dans notre promenade.
Moi, vous, et cela pour deux motifs.
Voyons, fit monsieur de la Morlière qui tressaillit d'une vague joie. Le premier est cette aversion de malade que vous témoigne madame Diane.
Et le second ?
Le second est plus sérieux. J'ai besoin que vous restiez ici. Pendant notre absence, vous ferez allumer du feu dans la chambre qu'occupait madame Diane et vous ferez remettre tout dans le même état qu'autrefois. J'aimerais assez même que dans un coin il y eût, comme cette nuit où elle attendait le comte, une petite table toute servie.
Ce sera fait, dit monsieur de la Morlière.
Or, poursuivit le docteur, voici ce qui arrivera. À notre retour, nous conduirons notre chère malade dans sa chambre, sa nourrice y restera seule avec elle et lui parlera d'Hector. D'abord, j'en suis convaincu, elle accueillera ce nom comme un souvenir vague, lointain, indéfini. Et ensuite, demanda le vieux général avec anxiété, ensuite Grindsel, qui se trouvera à la lisière du bois, fera entendre son houloulement.
Bien.
Puis il imitera de son mieux le coup de sifflet du comte.
Il l'imitait à merveille, observa le vicomte.
Alors, acheva le docteur, je suis convaincu qu'elle se souviendra.
Oh ! Murmura le général, Dieu vous entende, monsieur.
Le vicomte regardait la fenêtre, mesurait la distance qui la séparait du sol et qui était d'une quinzaine de pieds.
puis il remarquait au-dessous un amas de pierres de taille qu'on avait laissé là depuis la fin de l'été et qui était destiné à la reconstruction d'un mur.
« Que regardes-tu donc ?»
demanda M. de Morfontaine.
« Rien, mon oncle.
Alors, à quoi songes-tu »«
Je songe, » répondit M. de la Morlière, « que ce pauvre con de mardi a risqué 20 fois de se rompre les os.
Si le cep de vigne eût cassé, il se serait tué. »«
Hélas, » murmure le général, « mieux eût valu sans doute qu'il fût mort ainsi. »
Le vieux soldat essuya une larme, puis regardant le docteur,
« Venez, monsieur, je vais donner des ordres, et tout sera fait comme vous le désirez. »
3 heures plus tard, c'est-à-dire vers 2 heures de l'après-midi, une grande voiture de chasse au siège de côté était attelée de 4 vigoureux percherons et attendait au bas du perron de Belle-Ombre. Grain de sel, converti en cocher, juché sur son siège et tenant ses bêtes en main, causait avec Mathurin, le garde-chasse, en attendant que le général et ses hôtes quittassent la salle à manger. « Penses-tu qu'il pleuvra, grain de sel ?» demanda le garde-chasse. Le gars leva la tête et regarda le ciel. Le ciel était nuageux. Cependant, un pâle rayon de soleil glissait par intervalles entre 2 nuées.
« Pas avant la nuit, » dit-il.
« Et à la nuit ?»« Ce sera comme hier, mon vieux Mathurin, » répondit l'enfant. « Plus battante et vent d'enfer. Je m'y connais, moi, et je ne me suis jamais trompé. »
Grain de sel fut interrompu dans ses prédictions par M. de Morfontaine. Le vieux général souriait en pressant dans ses bras sa petite fille blanche et rose, dont la blonde chevelure toute frisée flottait au vent. Derrière le général, le docteur rouge offrait son bras à la vicomtesse de la Morlière. Le général répéta à grain de sel la question de Mathurin. Pleuvra-t-il ?
Non, monsieur le marquis.
Et ce soir, à Berce.
En route alors et dépêchons.
Un des caractères distinctifs de la folie de Madame Diane était une grande docilité et, pour ainsi dire, l'absence complète de toute volonté. Elle faisait ce qu'on paraissait désirer d'elle. Toujours souriante, toujours caressant sa petite fille, elle monta dans le break et s'y assit à côté de la vicomtesse de la Morlière en face du docteur. Le général était monté sur le siège à côté de Grain de sel. Mathurin, le garde-chasse, avait reçu sa consigne. Il avait autour de lui une demi-douzaine de paysans ayant le fusil sur l'épaule.
« Allons, mes enfants, » leur dit le général, « pendez vos jambes après votre cou et filez au bois par les raccourcis. »
Mathurin et ses compagnons s'élancèrent vers un sentier qui serpentait à travers le parc. Le vicomte était demeuré sur le perron.
« Bon voyage, »
dit-il en saluant. Grain de sel lui jeta un regard louche.
« pensa le gars, « j'aime autant que tu ne viennes pas, toi. » « Ta figure porte malheur. »«
Fouette, cocher !» ordonna le général.
Grain de sel rendit la main aux 4 percherons qu'il avait jusque-là contenus à grand-peine, et le fringant attelage s'élança dans la grande avenue. Le jeune gars faisait claquer son fouet d'une baillante manière, il excitait ses chevaux de la voie, et le break roulait un train d'enfer. Les bois qui s'étendaient entre Belle-Ombre et Mainhardy, et qui appartenaient pour une grande moitié au général, avait été aménagé pour la chasse et par conséquent percé de grandes lignes carrossables. Quand le break roula sous la futaie, Diane, qui jusque-là avait paru faire fort peu attention aux objets environnants, absorbée qu'elle était par la contemplation de son enfant, Diane, disons-nous, se prit à tourner la tête de droite et de gauche, comme si les lieux qu'elle parcourait ne lui étaient pas inconnus. Peu à peu, son sourire s'était effacé. Son visage avait pris une singulière expression de mélancolie, et au moment où le break passait devant un vieux chêne entrouvert, au pied duquel elle s'était souvent assise enfant, elle avait jeté un petit cri de joie et tendu la main comme pour saluer une vieille connaissance. Bientôt on avait atteint la chapelle. Le docteur épiait depuis longtemps le visage de la folle. Quand elle vit apparaître la flèche de l'humble église qui se dressait au milieu d'un taillis, Diane parut éprouver une vive émotion. Et comme si elle se fût reportée tout d'un coup au jour de son enfance, elle n'attendit point que le général l'invitât à mettre pied à terre. Tout au contraire, avec la légèreté d'un petit enfant, elle s'élança hors du break, courut à la chapelle dont la porte était ouverte et entra. Elle alla tout droit au vieux banc seigneurial et s'agenouilla, murmurant une prière de son enfance et pressant toujours la petite fille sur son cœur. Mais soudain elle tressaillit et se leva épouvantée. Un coup de fusil venait de se faire entendre dans l'éloignement. Et à ce bruit, un monde de souvenirs confus s'était agité dans sa tête. « Ne prolongeons point cette émotion, » dit le docteur à l'oreille de M. de Morfontaine. « Faites-la remonter en voiture. » Le général prit sa fille dans ses bras. « Viens, mon enfant, viens, il va pleuvoir. » L'effroi de la jeune femme n'avait point tardé à se calmer. Docile alors comme toujours, Diane remonta en voiture et le break repartit au grand trot dans la direction du château de Mahardy. À partir de ce moment, les coups de feu se succédèrent à 10 minutes d'intervalle. À chacun d'eux, Diane pâlissait, faisait un soubresaut sur le siège du break et jetait autour d'elle un regard effaré. Tout à coup, les tourelles de Mahardy apparurent dans l'éloignement. Alors Diane jeta un cri et mit ses deux mains sur ses yeux, comme s'ils eussent été brûlés par une vision terrible. « Tournez bride !» cria le docteur. Grain de sel tourna par une habile manœuvre pleine de hardiesse et entra précipitamment sous bois. « À belle ombre !» lui dit le général. « Vite, à belle ombre !»« Et nous arriverons tout juste avant la nuit et la pluie !» dit Grain de sel, qui tendit son fouet vers l'ouest où roulaient de gros nuages noirs. 2 heures plus tard, le break rentrait à belle ombre. Diane ne souriait plus. Triste, morne, pensive, le regard égaré, elle semblait chercher un absent. Parfois aussi, elle portait la main à son front comme pour y fixer un souvenir fugitif. Diane se mit à table dans cette grande salle à manger où jadis le général avait prié pour son ennemi, le comte Hector, et là aussi, elle sembla chercher quelqu'un. Enfin, au sortir du souper, elle se laissa entraîner par sa nourrice, la vieille Madeleine, qui lui disait « Viens, mon enfant, viens, allons-nous-en. » Grain de sel, qui se trouvait alors dans le corridor, s'effaça sur son passage. Le général s'était penché à l'oreille de la nourrice en lui disant « Tu resteras avec elle environ 1 heure. »« Bien, » dit Madeleine, « puis tu entr'ouvriras la fenêtre et tu t'en iras. » La nourrice fit un signe de tête affirmatif et Diane, qui ne se séparait jamais de son enfant et le portait constamment dans ses bras, Diane se laissa entraîner avec sa docilité habituelle. Alors le général, qui était demeuré seul avec le docteur et M. de la Morlière, dit à ce dernier « As-tu suivi les prescriptions du docteur ?»« Oui, mon oncle, il y a un grand feu dans la cheminée, devant le feu de bouteilles de Bordeaux. Sur une table, un pâté, et ce verre de cristal de bohème dans lequel elle aimait à le voir boire. Enfin, j'ai replacé sur la tablette de la cheminée ce volume de Shakespeare qu'elle lisait tous les soirs en attendant Hector. « Bon, » dit le docteur, « maintenant il faut aller nous placer sans bruit dans la pièce la plus proche de cette chambre. Il faut que vous soyez là, général, au premier éclair de raison. Allons dans la bibliothèque, en ce cas. « Non, mon oncle, » dit le chevalier, « mieux vaut nous placer dans la chambre verte, qui fait retour sur le bâtiment. Nous pourrons voir la fenêtre s'entr'ouvrir, et alors nous nous glisserons dans le corridor. « Soit, » répondit le général, et il sortit le premier. Grain de sel attendait toujours dans le corridor. « À ton poste, » lui dit M. de Morfontaine, « c'est l'heure. »« Je sais mon rôle, » s'écria Grain de sel, qui disparut comme une ombre. Le général, le docteur et M. de la Morlière allèrent se placer dans la chambre verte dont ils ouvrirent la fenêtre. Déjà le vent mugissait, déjà la pluie tombait à torrents. L'œil fixé sur la fenêtre de Diane, laquelle, le vicomte l'avait dit, était placée en retour d'angle, tous trois suivaient, à travers les vitres et grâce à la lumière qui brillait à l'intérieur, les moindres mouvements de Diane et de sa nourrice. Enfin, la fenêtre s'ouvrit, et l'œil ardent du général aperçut au coin de la cheminée sa fille, qui, une main sur son front, tenait son enfant sur ses genoux. Elle était dans l'attitude de ceux qui s'efforcent de fixer un souvenir fugitif. Madeleine, ainsi que le lui avait prescrit le docteur, s'était retirée sur la pointe des pieds. Tout à coup, le houloulement lointain de grain de sel se fit entendre à travers l'orage. Diane tressaillit et se leva vivement. « Venez, venez !» dit le docteur en s'élançant vers la porte. « Elle va se souvenir. Venez, il faut être là !» Le général se précipita sur les pas du docteur, mais à peine était-il dans le corridor qui conduisait à la chambre de Diane qu'ils entendirent un cri. Un cri terrible, un cri d'angoisse et d'épouvante, puis un bruit sourd qui semblait remonter des profondeurs d'un abîme.